Orion Hebdo, Éric Bataillon.
La communauté des Pieds Noirs est-elle en voie de disparition dans la mémoire collective? C'est la question que s'est posée l'autrice indépendante Nicole Guidicelli, elle-même issue de cette communauté. Et pour tenter d'y remédier, elle s'est lancée dans la création d'un podcast en 12 épisodes qui a pour objectif d'aider les Pieds Noirs à transmettre. Il interroge la vulnérabilité des exilés, l'exil comme acte fondateur, mais aussi les questions d'identité, d'invisibilité et d'intégration, ainsi que le travail de mémoire. Il est disponible depuis janvier sur toutes les plateformes d'écoute et de téléchargement. Suivra la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Chaque histoire de ce podcast est une trajectoire de vie personnelle, singulière. Elle ne représente qu'elle-même, car chacun a son histoire et chacun a sa mémoire.
Et de nous, qui se souviendra? Par Nicole Guidicelli.
Bonjour Nicole Guidicelli.
Bonjour Éric Bataillon.
Auteur indépendante, vous avez mis en ligne 6 épisodes d'un podcast consacré aux rapatriés d'Algérie, ceux que l'on appelle les Pieds Noirs. Le dernier en date s'intitule « France, une ferme en Kabylie ». France, c'est un prénom. Quelle est votre intention en vous intéressant à cette communauté particulière ?
Eh bien, je suis moi-même Pieds Noirs, puisque je suis née en 1960, 2 ans avant l'indépendance de l'Algérie. Et j'ai grandi dans une famille Pieds Noirs. Mes parents ont connu l'exode. Je suis arrivée à 2 ans en France et j'avais envie de leur rendre hommage parce que j'ai toujours trouvé que cette parole n'avait pas été entendue ni accueillie par la société française ou dans la société française. Et j'ai toujours trouvé qu'il y avait une sorte d'injustice, en quelque sorte, vis-à-vis des Pieds Noirs, qui avaient subi les drames qui étaient dus à la décolonisation, mais aussi l'exode, l'exil et la difficulté de l'intégration en France, avec souvent des réactions des Français de métropole très difficiles à supporter pour eux, en fait, très humiliantes même parfois.
Et parfois très agressives.
Et parfois très agressives, effectivement.
Nicole Guidicelli, le podcast s'appelle « Et de nous, qui se souviendra ?» Y a-t-il selon vous un risque que les Pieds Noirs sortent de notre mémoire collective ?
Oui, certains Pieds Noirs que j'ai rencontrés craignent que l'histoire des Pieds Noirs s'évanouisse et qu'ils soient en quelque sorte engloutis par le temps et les générations qui suivent. Il y a effectivement un risque parce que les Pieds Noirs n'ont pas beaucoup transmis. Ils ont beaucoup écrit pour eux, ils ont beaucoup écrit en laissant des témoignages au sein de leur famille. Mais ils n'ont pas beaucoup transmis et eux-mêmes n'ont pas voulu parfois gêner l'intégration de leurs enfants et se sont tus finalement. Ils se sont intégrés, bien intégrés, comme l'a souligné le président de la République Emmanuel Macron dans son discours du 26 janvier, très bien intégrés même à la société française, mais ça s'est fait en silence. D'une part pour ne pas réveiller les souffrances, et d'autre part, pour ne pas entraver l'intégration de leurs enfants. Ce qui fait qu'ils sont devenus finalement invisibles, les Pieds Noirs, aujourd'hui. Les descendants de Pieds Noirs sont invisibles, aujourd'hui.
Alors justement, qui sont ces rapatriés d'Algérie, également, je suppose, du Maroc et de Tunisie, auxquels vous donnez la parole? Comment les avez-vous rencontrés?
J'ai fait passer des annonces dans certaines associations de Pieds Noirs. Certaines associations m'ont relayée et j'ai pu comme ça remonter tout doucement à certains Pieds Noirs qui ont accepté de témoigner, parfois spontanément, mais toujours quand même avec une certaine crainte quand je leur parlais d'Internet, quand je leur expliquais qu'un podcast était diffusé sur Internet à une grande échelle. La plupart ne connaissaient pas ce système du podcast et ce média du podcast. Ça leur a fait un peu peur, mais finalement, ils s'y sont faits et grâce à l'anonymat des témoignages, ils se sont sentis en quelque sorte un peu libérés au niveau de la parole.
Alors justement, sans dévoiler les épisodes à venir, Que disent-ils ? Ont-ils tous la même perception de leur situation, de leur histoire et de leur avenir ?
Pas du tout. C'est ça qui est fou dans l'histoire des Pieds Noirs, c'est que c'est un kaléidoscope de mémoire, un kaléidoscope d'histoire. Souvent, l'un ne se reconnaît pas dans l'histoire de l'autre parce que les Pieds Noirs ont connu des sorts extrêmement différents les uns des autres. Par exemple, quelqu'un qui est parti 5 ans avant l'indépendance n'a pas vécu les souffrances de la guerre et les souffrances de l'exil. Quelqu'un qui a pu partir en ayant déjà un job en France ou bien en ayant déjà une maison ou de la famille en France n'a pas vécu les duretés de l'exil. Exode et de l'exil. Certains ont vécu le déclassement, d'autres pas. Certains avaient des places d'employés, même modestes en Algérie, d'autres n'étaient que de simples ouvriers. Donc chacun a vraiment son histoire, chacun a son chemin de souffrance, chacun a sa vie familiale. Et après, bon, y a aussi les femmes qui sont arrivées toutes jeunes en métropole et qui se sont mariées avec des Français de métropole. Et là, par contre, il y a un trait commun, c'est qu'elles disent toutes quand même qu'elles ont connu une sorte de déni de leur histoire dans la famille de leur mari, en fait. Et souvent, elles n'ont retrouvé leur identité pieds-noirs, que soit à partir du divorce, que soit à partir de la retraite. Mais souvent, il y a eu cette difficulté d'affirmer leur identité et leur histoire de pieds-noirs, en fait.
Dans les deux premiers épisodes, mis en ligne en janvier, on y entend Marie-Jeanne de Saïda et Anne-Lise. La première est nostalgique, alors que la seconde semble plus vivre avec son temps. C'est ce qu'on peut dire ?
Oui, je crois que toutes les deux vivent avec leur temps parce qu'elles se sont toutes les deux bien intégrées. Mais c'est vrai que Marie-Jeanne décrit une enfance extrêmement heureuse à Saïda, bien qu'elle ait été très pauvre en fait. Sa famille était très pauvre, sa maman travaillait pour les colons, ils n'avaient pas du tout d'argent. Mais je crois que ce n'est pas de la nostalgie, ou c'est une forme de nostalgie, je dirais, positive, c'est-à-dire la nostalgie qu'on peut avoir pour une enfance et tous les souvenirs d'enfance, et malgré les difficultés de la guerre, parce que Dieu sait que Marie-Jeanne parle des difficultés de l'exil et de l'exode, et que sa maman qui est arrivée sans savoir lire et écrire en France, ça a été extrêmement difficile au départ. On ne peut pas dire qu'ils soient nostalgiques. Ils ne sont pas, par exemple, nostalgériques. Il y a eu l'adjectif nostalgérique, nostalgériste, mais ce n'est pas leur cas. Elles ont été très positives, elles se sont formées, elles ont travaillé, elles ont exercé plusieurs métiers, elles se sont reconverties pour la plupart. Souvent, le fait de se reconnecter avec leur identité pieds-noirs leur a permis ou leur a exigé qu'elles se reconvertissent même professionnellement en fait. Au fur et à mesure qu'elles vieillissaient, elles se sont retrouvées dans leur identité pieds-noirs, dans leur histoire, dans leur enfance, dans leurs racines en fait. C'est plutôt une volonté de renouer avec les racines et avec la terre sur laquelle elles étaient nées.
Nicole Guidicelli, si les pieds-noirs de première génération disparaissent au fil du temps, et c'est bien normal, à qui s'adresse ce podcast ?
Il s'adresse surtout aux descendants des Pieds Noirs, aux enfants des Pieds Noirs qui ont très peu parlé dans les familles parce qu'il était difficile, enfin moi je l'ai vécu. On ne voulait pas poser de questions à nos parents pour ne pas leur faire de mal, pour ne pas réveiller les souffrances. On ne se sentait pas légitime à aller chercher des choses qu'ils avaient patiemment enfouies pour essayer de s'en sortir. Alors c'est vrai que les enfants eux-mêmes ont concentré leurs efforts sur la nécessité de s'intégrer, de faire des études, de réussir ce qui est possible. En tout cas, c'était l'injonction que nos parents nous donnaient. Il faut travailler, travailler, encore travailler pour réussir et s'intégrer le mieux possible. Quant aux petits-enfants, certains s'intéressent à l'histoire de leurs grands-parents. Maintenant, on est à la génération même des arrière-petits-enfants. Les petits-enfants posent des questions, ils s'intéressent, mais ça a été quand même un sujet assez tabou dans les familles. Et ce podcast est destiné justement à ces petits-enfants. Par exemple, Marie-Jeanne, qui a fait écouter son épisode à sa famille et à ses petits-enfants, elle a eu des réactions incroyable de la part de ses petits-enfants qui lui ont dit « On te remercie, mamie, parce que papy nous a jamais parlé de ça. » Et elle a été très émue. Et les gens de son village, elle est dans un village de l'Ain, sont allés la voir parce que dans son podcast, elle disait « Je n'ai pas de racines en France, en métropole. » Et ils lui ont dit « Nous sommes plus jeunes que vous, mais nos racines, c'est vous qui êtes dans ce village et qui faites beaucoup de choses pour le cimetière de ce village, par exemple. » Donc ça déclenche des réactions chez les enfants, chez les petits-enfants. enfants et dans les familles surtout. Dans les familles où cette histoire a été difficile à aborder.
Pourquoi maintenant ? Est-ce lié à la commémoration des 60 ans des accords d'Évian ?
Bien sûr, je crois que c'est un moment où tout le monde se souvient, où il est temps d'ouvrir un espace de parole, ne serait-ce qu'au plan symbolique, comme Emmanuel Macron l'a fait dans son discours, il a ouvert un espace de parole. Moi, je me dis qu'il est temps, 60 ans après, même si toutes les recherches ne sont pas encore faites, ne sont pas abouties, il y a encore énormément de recherches à faire sur les faits historiques dramatiques qu'a reconnu le président de la République, mais la parole, elle commence à se libérer, parce que les pieds noirs, les vieux pieds noirs disparaissent et on sent bien que souvent ils ont envie de parler maintenant. Leurs petits-enfants sont prêts à aborder ce chapitre-là de leur histoire familiale et je pense que 60 ans après, c'est le bon moment.
Comment ce podcast est-il diffusé, Nicole Guidicelli ?
Alors, il est diffusé, je l'ai placé sur un hébergeur de podcast qui s'appelle Ocha, qui le diffuse lui-même sur toutes les plateformes de diffusion, Spotify, Deezer, Apple Podcast, SoundCloud. Donc, on peut le trouver sur toutes les plateformes de diffusion. Il a aussi un fil d'information sur Facebook, qui se souviendra.com, et on peut suivre l'actualité du podcast où je poste régulièrement des news à l'occasion de la sortie de chaque épisode, où je raconte un peu ma rencontre avec chacun des témoins et ce que chacun des témoins m'a dit, en fait. Donc ça permet de se tenir au courant de la sortie des épisodes.
Et à quand le prochain ?
Il y en a un tous les 15 jours, tous les 2e et 4e dimanches de chaque mois.
Merci Nicole Guidicelli.
Merci Eric Bataillon.
Autrice du podcast Et de nous qui se souviendra, 12 épisodes consacrés aux pieds noirs, à voir sur toutes les plateformes d'écoute et de téléchargement. Elle est née au bord de la mer Caspienne, à Sari, en Iran. La soprano Anoucha Nazari vit en France depuis 2016. Elle était en concert ce jeudi à Paris avec Rebecca Chaillot au piano lors d'une soirée caritative de lancement de la bourse Habib Sharifi, poète et universitaire franco-iranien, mélomane, décédé en mars 2021. La bourse est proposée par l'association Gondi Chapour, qui encourage la création musicale et poétique. Voici un court extrait du dernier album d'Anoucha Nazari, Le son des ancêtres. Retrouvons maintenant Alexandre Bouchanté au Caire. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Et Michel Paul à Jérusalem. Bonjour Michel.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Avec vous, nous lisons les grands titres de la presse de la semaine. Alexandre, les résultats des élections législatives libanaises font l'objet de nombreux commentaires dans la presse arabe.
Et la première constatation de nombre de journaux est que les queues ont repris de plus belle devant les boulangeries et les stations d'essence. Les coupures d'électricité quotidiennes se sont allongées pour friser les 20 heures, tandis que la lire libanaise s'est effondrée encore plus face au dollar et que beaucoup de magasins ont préféré fermer pour limiter les pertes. Mais ce que la plupart des journaux soulignent, c'est la perte de la majorité parlementaire dont disposaient le Hezbollah et ses alliés du mouvement Amal et les chrétiens pro-président Aoun. Une double défaite pour l'Iran, mais aussi pour le régime syrien du président Assad, estime un éditorialiste. Les journaux, à l'exception de ceux favorables au Hezbollah, saluent la victoire d'une douzaine de députés venus de la société civile, excédés par l'incompétence et la corruption des élites régnantes depuis des décennies. Reste que la plupart des analystes se demandent si cette absence de toute majorité ne rendra pas le pays encore plus ingouvernable et la crise encore plus aiguë.
Crise politique également en Israël, Michel Paul. Décidément, les choses vont mal pour le Premier ministre israélien Bennett.
C'est le nom qu'il faut retenir en cette fin de semaine. Il fait la une de tous les médias en Israël. Raïda Rinaoui Zoabi, une députée arabe du parti Colombe Meretz, sans crier gare, elle annonce qu'elle se retire de la coalition en raison de la situation sécuritaire. Et Eric, cela signifie que le gouvernement de Naftali Bennett, qui ne tenait plus qu'à un fil après avoir perdu la majorité à la Knesset, est désormais minoritaire avec 59 sièges sur les 120 que compte le Parlement israélien. Ses jours sont comptés. Le gouvernement peut-il être malgré tout sauvé, demande le Jerusalem Post. L'auteur de l'article fait remarquer que la députée n'a pas dit qu'elle allait voter avec l'opposition. Alors, les titres sont consacrés bien sûr à cette nouvelle situation. Un week-end décisif, au bord du précipice, le fiasco historique ou encore en route vers de nouvelles élections. Une partie des commentateurs se réjouit, les autres affichent leur deuil. Et puis il y a ceux qui attaquent Raïda Rinaoui Zoabi, comme le quotidien de gauche Haaretz, qui la qualifie de « bibiste de placard », en d'autres termes, qui l'accuse de provoquer le retour au poste de Premier ministre de Benjamin Netanyahou, accompagné cette fois d'éléments kahanistes de l'extrême droite israélienne. Eric, rendez-vous mercredi prochain, journée décisive pour la survie du gouvernement Bennett.
Feuilleton à suivre en effet, Michel. D'autres sujets également qui font les titres en Israël et en bref.
Et tout d'abord, la grève des personnels médicaux dans les hôpitaux, ras-le-bol des médecins et des infirmières agressés par des familles de patients, c'est devenu monnaie courante dans les établissements hospitaliers. Beaucoup de commentaires aussi sur la décision du ministère de la Sécurité intérieure d'autoriser le défilé des drapeaux le 29 mai prochain dans le quartier musulman de la vieille ville de Jérusalem, une décision critiquée notamment par le quotidien Haaretz, mais saluée par d'autres médias. À la une aussi, les manœuvres de l'armée israélienne qui simule une attaque de grande envergure sur les installations nucléaires iraniennes, réelles ou intimidation, se demandent plusieurs spécialistes, sans apporter vraiment de réponse à cette question, mais qui parle de la frustration israélienne en la matière. Et comme partout, Eric, la presse parle de la variole du singe. À ce stade, ce n'est pas une menace réelle, explique un commentateur.
Il est également question de singes dans les journaux saoudiens, Alexandre, avec ce titre « Les singes attaquent ».
Il s'agit de babouins de l'est de l'Arabie qui, faute de prédateurs comme le léopard du désert, se sont multipliés à un rythme tel qu'aujourd'hui les experts cités par les journaux estiment que l'on est face à une explosion démographique simiesque. Certains vont jusqu'à penser qu'il y aurait 300 000 babouins en Arabie. Une explosion qui a poussé des hordes de babouins à quitter les régions semi-arides pour se rapprocher des villes et des villages où ils se nourrissent des déchets laissés par les hommes. Des hordes qui se sont même aventurées dans la capitale Riyad. Ailleurs, on a vu de vraies batailles entre hordes rivales pour la conquête d'un territoire. Résultat, de nombreuses personnes ont été blessées par des babouins de plus en plus agressifs et les risques de maladies augmentent. Un expert cité par les journaux préconise une solution à l'australienne, ouvrir la chasse et exterminer 90% des babouins.
Et l'image que vous avez retenue pour nous, Michel, cette semaine ?
Eh bien, ce sont les photos du pèlerinage annuel du mont Méron. L'an dernier, une bousculade géante avait provoqué la mort de 45 personnes. Cette fois, les choses se sont bien passées, mais les cérémonies ont dû finalement être interrompues lorsque des groupes d'extrémistes juifs ont attaqué les policiers qui tentaient de limiter le nombre de participants à ce pèlerinage.
Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo, mise en onde et réalisation comme chaque semaine, Mathias Golshani. Retrouvez-nous sur le site de la radio RFI.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio et sur la plupart des plateformes numériques. Demain, second volet de notre reportage au Maroc à l'occasion du 120e anniversaire de la création de la mission laïque française. L'émission sera justement consacrée au Maroc, laboratoire d'innovation et exemple de développement pour la mission laïque. À demain donc, tout de suite le journal.